Les semaines sociales de France sont un espace de rencontres, de formations et de débats pour agir en faveur du bien commun en s'appuyant sur la pensée sociale chrétienne. Cette 95e rencontre pourra se suivre à 100% en ligne. Dès ce vendredi, elle aura pour thème « Osons rêver l'avenir, prendre soin des hommes et de la terre ». Pour nous en parler ce matin, nous recevons la secrétaire générale des semaines sociales de Toulouse et titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Marie-Christine Monnoyer.
Bonjour.
Marie-Christine Monnoyer, quel est l'objectif de ce thème « Osons rêver l'avenir, prendre soin des hommes et de la terre ».
Eh bien, c'est de penser à demain, on va dire à aujourd'hui et demain, et peut-être même après-demain. Pourquoi est-ce qu'on ose rêver l'avenir? Je crois que tout le monde va comprendre très vite. Nous sommes dans une période difficile. Nous pensons cinquième vague, nous pensons pandémie, nous pensons climat. C'est-à-dire que tous ces éléments qui sont extrêmement angoissants nous sont tombés dessus depuis 2 ans. Alors, peut-on encore rêver? A-t-on le droit? Est-ce une bonne idée? Et est-ce pour les calendes grecques ou est-ce pour aujourd'hui et demain? Voilà pourquoi les semaines sociales ont choisi ce terme, osons rêver l'avenir.
Est-ce que ce n'est pas aussi une posture d'espérance dans laquelle les semaines sociales se mettent?
Dès que l'on ose et dès que l'on rêve, on espère. Mais c'est plus que de l'espérance. Parce que c'est de l'espérance active. Et donc, on n'est pas en train de rêvasser. On est en train de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut peut-être se bouger un petit peu plus, sur quoi on peut s'appuyer pour avoir envie de bouger et comment on bouge. Je crois que ces trois temps-là se voient dans le programme des semaines sociales.
Alors, on va dérouler ce programme. Cette 95e rencontre des semaines sociales de France va faire alterner des ateliers participatifs, des conférences, des tables rondes pour réfléchir au monde de demain. Vous aurez comme intervenants des jeunes, des philosophes, des scientifiques, des théologiens, des artistes. Est-ce que ces personnes vont pouvoir, qu'est-ce que ces personnes vont pouvoir apporter à la réflexion sur le monde de demain, chacune selon sa personnalité et sa spécificité?
Alors, vous avez dit qu'il y aurait d'abord des différences d'âge. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, on ne rêve pas tout à fait de la même façon quand on a 30 ans et quand on en a 70. J'ai envie de dire que quand on en a 70, on rêve à court terme. Quand on en a 30, on rêve aussi à court terme parce qu'on est pressé, mais on a aussi, comme on dit, la vie devant soi. Donc le premier point, c'est qu'on est mélangé en termes d'âge, donc ça veut dire aussi en termes d'expérience de vie. Et ça, c'est important parce que les jeunes ont besoin de l'expérience de vie des plus anciens et parce que les plus anciens ont besoin de l'expérience actuelle de vie des plus jeunes. Donc ça, c'est, il me semble, un point fondamental. Après, vous avez dit, on va parler de conférence. Alors, qui dit, le mot conférence fait parfois peur à certains, mais c'est quand même le moment, surtout si la conférence est bien faite, d'améliorer ses compétences, sa compréhension des problèmes existants. C'est-à-dire, au lieu de fantasmer les problèmes, de les analyser. C'est pas tout à fait la même chose.
C'est une façon de nourrir la réflexion, en fait.
Voilà. C'est pas tout à fait la même chose quand vous pensez à la problématique du climat et quand vous avez un docteur en physique qui vous explique pourquoi est-ce que le climat est en train de changer et qu'est-ce que ça veut dire.
C'est concret.
C'est concret. Et en plus, Thierry Magnin, il explique extrêmement bien. Moi, je le connais. Et quand il parle, eh ben, on comprend. Donc, au fond, on comprend toute l'importance du problème climatique, mais on n'est pas dans un monde où on fantasme des difficultés épouvantables. Donc, la conférence, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça sur le plan scientifique, mais c'est aussi pour ça lorsque, par exemple, on va parler de conversion écologique. C'est-à-dire qu'on va passer de la dimension scientifique dur, même si Thierry Magnin étant aussi un théologien, c'est pas tout à fait neutre, mais quand on va parler de la conversion théologique, de la conversion écologique, eh bien, cela veut dire qu'on va mélanger nos savoirs, une fois qu'on a compris un petit peu mieux comment la problématique climatique, eh bien, on va changer essayer de comprendre comment on peut changer sa façon d'être, de faire, de réfléchir vis-à-vis de l'écologie. Donc vous voyez, il y a un mélange, c'est-à-dire qu'on améliore ses connaissances et à partir de connaissances améliorées, eh bien on réfléchit. Mais on réfléchit pas tout seul, mais on réfléchit aussi soi. Parce que à 30 ans et à 70 ans, on n'est pas pareil, à 50 ans non plus. Et donc ce que l'on peut faire en termes de conversion écologique, c'est pas la même chose quand on en a 30 ou quand on en a 70.
Vous parliez justement aussi d'action, Marie-Christine Monnoyer, les ateliers qui sont proposés et qui peuvent être aussi suivis en ligne. On va avoir plusieurs thématiques. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous montrer justement comment cette réflexion qui est nourrie par ces différentes conférences va pouvoir aboutir en fait à des actions concrètes?
Alors d'abord, je voudrais revenir sur le fait que vous avez dit que les ateliers étaient en ligne.
Oui.
Ceux qui ont eu la chance, la bonne idée, de participer l'année dernière aux semaines sociales ont déjà vécu des ateliers en ligne. Et donc, cela veut dire qu'ils savent que ça s'est extrêmement bien passé, que c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on ne peut pas faire un atelier. Moi, je me rappelle que dans l'atelier dans lequel j'étais l'année dernière, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. En fait, un petit peu comme si on était autour de la table devant laquelle je suis assise aujourd'hui. Donc, la ligne n'empêche pas l'atelier. Ça, c'est l'organisation, si vous voulez. Oui. Alors après, vous m'avez dit, quel thème? Eh bien, nous n'avons pas tous la même sensibilité à la question de la conversion écologique ou à la question de l'engagement vis-à-vis du futur. Pourquoi ? Ben parce que nous sommes tous différents.
C'est une question de sensibilité aussi.
C'est une question de sensibilité, c'est une question d'expérience et c'est aussi, dans certains cas, une question liée au savoir, avec un S, que nous avons. Par exemple, le premier qui est proposé, c'est la consommation durable. Alors, on a tous des expériences de consommation, un petit peu par définition. Mais il y a des personnes qui sont aujourd'hui, qui ont été très sensibilisées à la problématique de la consommation, parce que on voit bien que quand on consomme, il faut fabriquer, détruire, etc. Et qu'en termes de déchets, de destruction, c'est pas fondamentalement positif. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus consommer? Certainement pas. Mais ça veut dire que un certain nombre de personnes aujourd'hui sont très sensibles à la question de la consommation. Et puis, il y en a qui ne sont pas sensibles à la question de la consommation pour une raison simple, c'est qu'ils consomment de moins en moins, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens pour consommer, soit parce que, comme justement ils ont pris quelques années, ils ont moins de besoins de consommation. En revanche, ils sont très intéressés, par exemple, par la question de la citoyenneté. Parce qu'ils se disent, et pourquoi les jeunes ne veulent plus aller voter? Pourquoi est-ce que c'est difficile dans les associations d'avoir des bénévoles? C'est effectivement une question de citoyenneté. Et donc ceux-là, eh bien, ils se posent souvent le matin quand ils vont, par exemple, dans leur association. Ils sont confrontés au fait qu'on n'arrive pas à avoir davantage de bénévoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une citoyenneté désirable? Et comment est-ce qu'il pourrait donner envie à d'autres de s'engager, qui est quand même un des maîtres mots des semaines sociales, de s'engager dans des actions qui seraient très intéressantes pour l'ensemble de la collectivité, très intéressantes pour l'ensemble des citoyens, et en fait aussi très intéressantes pour chacun d'entre eux. Donc vous voyez, selon ce que l'on est, où l'on est, parce que c'est pas pareil quand on habite en plein cœur de ville ou quand on est dans une petite ville ou un espace plus rural. Par exemple, je suppose que ceux qui habitent en village, quelle ville désirable, ça va pas forcément les passionner un max, quoi. Alors que les relations intergénérationnelles, eh bien, lorsqu'on est en particulier en espace rural, souvent on vit plus profondément avec des générations différentes et c'est pas forcément facile. Et donc on a peut-être envie de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec l'intergénérationnel?
Et quels sont les outils qui pourraient
peut-être de les résoudre?
Oui. Voilà. Les deux dernières encycliques du pape François, Laudato Si et Fratelli Tutti, offrent une boussole pour répondre aux défis de la conversion écologique. Comment, à votre avis, est-ce possible de concilier le nécessaire prendre soin de la terre et prendre soin des hommes? Parce qu'on parle, il faudrait pas limiter la conversion écologique à justement uniquement le soin de la planète, entre guillemets.
Alors là, on ne peut absolument pas les différencier. C'est complètement lié. Évidemment, le tout est lié dans Laudato Si, tout le monde l'a entendu, que vous ayez lu Laudato Si ou pas, mais c'est vrai que les hommes et la terre, c'est lié. Dans les textes de Fratelli Tutti, on le voit profondément. Alors, bon, quand on commence, ou dans Fratelli Tutti ou dans Laudato Si, mais dans Fratelli Tutti, quand on commence par le fameux évangile du prochain, etc., eh bien, on comprend bien tout de suite que la relation à l'autre, la relation à autrui, elle est absolument fondamentale. Mais à partir du moment où on a ce sens de la relation à la terre, il me semble qu'on change de regard par rapport à la relation à l'autre. Parce que la terre, c'est ce que l'on partage. La terre, c'est ce que l'on mange, c'est ce que l'on respire, c'est ce que l'on admire. Or, admirer tout seul, c'est pas drôle. Manger tout seul, c'est pas drôle. Et toute la question du partage est là. Donc en fait, quand on fait du bien à la terre, en règle générale, ça profite à l'autre. Je pense que c'est pour ça. Je n'étais pas dans le choix du titre, mais prendre soin des hommes et de la terre. Et vous voyez, on a commencé par les hommes. Prendre soin des hommes et de la terre, parce que cette sensibilité-là, elle se traduit immédiatement par la terre et réciproquement. On voit que tous ceux qui ont entamé des actions de protection des cultures, de protection de la nature, de protection des espaces, en fait, immédiatement, ils se retrouvent avec d'autres. Et donc là, on prend soin des autres. Que ce soit les autres qui vous ressemblent, que ce soit les autres qui soient plus jeunes, que ce soit les autres qui sont plus vieux.
Et qui sont aussi plus éloignés, peut-être géographiquement.
Oui.
Un dernier mot, Marie-Christine Mounoyer, sur votre réflexion à propos de la COP26 de Glasgow, là, qui s'est achevée le 12 novembre dernier. Nous le savons, elle a suscité de grands espoirs, mais malheureusement aussi beaucoup de déceptions. Quelle analyse vous en feriez?
Alors, si vous voulez, bien sûr, moi, j'ai été déçue par certains mots, par certains manques de mots. Mais je suis moins négative que certains grands titres de journaux. D'abord parce que si on avait été tellement heureux de la COP21, c'est peut-être aussi parce qu'elle était en France. et en fait, on a bien vu que s'il y a eu des très grands mots à la COP21, eh bien, tout ce qui avait été annoncé n'a pas forcément été appliqué. Donc, c'est pas parce qu'il y a des grands mots qu'il y a des applications. Quand les mots sont plus petits, c'est plus facile à appliquer. Et quand le Premier ministre indien dit « on va réduire notre consommation de charbon » et que tout le monde est triste parce qu'il n'a pas dit « on va arrêter la production de charbon », moi, j'ai regardé quelle était la part du charbon dans l'utilisation énergétique de l'Inde. Eh bien, je sais que ce n'était pas possible d'arrêter. Parce que sinon, comment ils se nourrissent? Comment on fait à manger? Comment on se protège du froid?
Vous avez un regard plutôt réaliste, en fait, sur
si vous voulez, quand vous regardez... Bon, moi, je fais un cours sur le développement durable auprès de mes étudiants de deuxième année de licence. Donc, les chiffres, je les regarde tous les matins. Et je vois bien qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui seront possibles. Ce qui est important, c'est de faire tout ce qui est possible. Et en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et dans la COP26, il y a des éléments qui sont des éléments dynamisants. Si on les prend à bras le corps, et on les prend à bras le corps, chacun.
Alors, on va rester justement sur ce dernier mot. Merci beaucoup, Marie-Christine Mounoyer, d'être venue dans les studios de Radio Présence ce matin. Vous nous avez présenté la 95e rencontre des semaines sociales de France, qui va se dérouler à partir de ce vendredi 26 jusqu'à dimanche 28 novembre. Il faut s'inscrire sur le site www.ssf-fr.org.
C'est très important de s'inscrire, parce que si vous ne pouvez pas suivre toute la session, vous pourrez la voir en replay. Et donc, vous pouvez l'étaler un petit peu dans le temps.
Merci beaucoup.